Chapitre 4. Anne est allongée sur son lit, les yeux rivés sur le plafond, elle tente de se concentrer. Où trouver le début d'une piste pour découvrir l'assassin d'Émile Perrier et délivrer Jean-Baptiste des accusations dont l'accable la police? Non, elle ne voit pas. Son regard glisse vers la fenêtre, elle aperçoit quelques nuages rosés du plus bel effet, annonçant le crépuscule. Et tout à coup, une idée lui vient, la fenêtre. L'appartement d'Émile Perrier aussi a des fenêtres. Comme souvent à Paris, le dernier étage a été aménagé dans le toit à double pente de l'immeuble. Une première partie en forte pente, presque verticale, comme pour rehausser les murs dans laquelle sont percées des fenêtres en chien assis, et au-dessus, une partie presque plate pour couvrir l'ensemble sans trop surélever l'édifice. Anne se précipite, ouvre la fenêtre la plus proche et se penche. Sa mémoire ne l'a pas trompée. À 1 mètre sous la fenêtre, il y a bien un rebord de 30 à 40 cm de large, recouvert de zinc, qui doit faire le tour de l'immeuble. Cela signifie clairement que l'assassin a pu pénétrer dans l'appartement d'Émile Perrier autrement que par la porte et en ressortir de même sans avoir besoin d'une clé. Cela ouvre d'autres horizons à l'enquête. Elle a enfin le début d'une piste. L'assassin a pu venir de l'un des 3 autres appartements. Enfin, des 2 autres, car il n'y avait aucune trace de passage chez moi. Il a pu aussi venir de l'immeuble d'à côté, s'il y a une communication possible par les toits. On voit cela dans des tas de films. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que j'aille voir sur place s'il y a des traces d'effraction ou de passage, car une des fenêtres pouvait être restée ouverte ou même simplement entrebâillée. Dans tous les cas, cela me permettra de voir l'appartement d'Émile Perrier sans briser les scellés qui condamnent sa porte. Anne approche une chaise de la fenêtre pour lui servir de marchepied. Elle regarde en bas, le fameux rebord lui cache la cour au pied de l'immeuble. C'est haut et il n'y a pas grand-chose pour se tenir. De toute façon, il vaut mieux que j'attende la nuit. J'aurais l'air maligne si on m'apercevait à vadrouiller sur les toits. Anne ouvre sa penderie et se cherche des vêtements adéquats, sombres, serrés et chauds si possible. Elle met un vieux pantalon de jogging bleu marine et un pull vert foncé. Le pull est un peu trop ample, mais tant pis. Au pied, elle met une paire de baskets. Elles sont blanches, mais elle n'a rien d'autre, pas question de se promener sur les toits en chaussures de ville. Elle est prête, mais la nuit n'est pas encore totalement arrivée. Elle s'assied sur le bord de son lit pour tenter de calmer son excitation. Elle entend son cœur battre à grands coups dans sa poitrine. Elle s'entraîne à respirer bien lentement pour retrouver son calme. Elle n'est pas très sportive, encore moins acrobate, et se promener au bord du toit avec 5 étages de vide sous elle et sans la moindre barrière ne lui paraît pas évident. En toute autre circonstance, elle refuserait de prendre de tels risques, mais elle a tellement voulu et cherché cet élément nouveau pour démarrer son enquête que maintenant qu'elle l'a trouvé, il ne lui est pas venu à l'idée de renoncer. La nuit est enfin tombée. Elle se lève, éteint la lumière, s'approche de la fenêtre, l'ouvre. Le froid la surprend un peu. Elle considère l'immeuble d'en face qui suit sa petite vie tranquille. Personne ne fait attention à elle. Il faut dire que cet immeuble n'est pas tout près et qu'il est légèrement en biais. Elle monte sur la chaise, passe une jambe par la fenêtre, puis l'autre, et se retrouve assise sur l'appui, les pieds dans le vide. Il lui manque quelques centimètres pour toucher du bout des pieds le rebord sur lequel elle doit cheminer. Elle se met à trembler. Elle sent son cœur qui cogne et s'affole. Le courage lui manque tout à coup. 5 étages, c'est haut. Elle se cramponne des 2 mains à l'encadrement de la fenêtre. Elle ferme les yeux et fait de gros efforts pour contrôler sa respiration et retrouver son calme. « Maintenant, il faut que j'y aille. Plus j'attends, plus je vais paniquer. C'est le départ qui est difficile. Ça ira mieux une fois partie. » Elle se laisse glisser sur les fesses et tout de suite, ses pieds prennent appui sur le rebord recouvert de zinc. « Surtout ne pas regarder en bas. » Il faut que je m'imagine qu'il y a une pelouse bien tendre à 50 cm en dessous. Je ne risque rien. Anne se met à 4 pattes et commence à avancer. À ce moment, elle n'a plus rien pour se tenir, aucune prise n'existe. Heureusement, le rebord sur lequel elle progresse est assez large, et si ce n'était la peur qui la paralyse, elle pourrait se déplacer très facilement et même circuler debout. Elle est partie vers la droite pour atteindre au plus court les fenêtres d'Émile Perrier. Mais elle se rend vite compte de son erreur. Entre son appartement et le sien, il y a l'escalier de l'immeuble. Et cet escalier est recouvert d'une verrière. La forme du toit est différente. À ce niveau, le rebord sur lequel elle circule s'arrête. Pas question d'escalader la verrière, de risquer de passer au travers et de faire un atterrissage fracassant dans la cage d'escalier. Il lui reste la possibilité de faire le tour dans l'autre sens, en espérant que le rebord est bien continu. Mais elle va devoir faire le tour presque complet du toit et passer au-dessus de la rue des Vignes, ce qui ne l'enchante guère. Pourtant, après avoir réussi un demi-tour délicat, car elle n'a toujours rien pour se tenir, elle repasse devant sa fenêtre et continue, toujours à quatre pattes. Elle laisse ensuite sa deuxième fenêtre sur sa gauche et arrive à l'angle du toit. Le rebord continue sur la gauche. Elle tourne à angle droit pour le suivre avec la désagréable impression, dans le virage, d'avoir les jambes au-dessus du vide. Il n'y a pas de fenêtre de ce côté. En dessous, c'est l'impasse des cordonniers. L'immeuble en face est tout proche. Heureusement, il n'est pas trop haut. Anne se dit que les locataires ne doivent pas passer beaucoup de temps à surveiller les toits voisins une fois la nuit tombée. Elle tourne encore une fois sur la gauche et suit la rue des Vignes. Elle va passer sous les fenêtres de son voisin de palier le plus proche, la porte en face de la sienne. Elle le connaît de vue, le croise de temps en temps. Elle sait qu'il s'appelle Thibault et qu'il est réputé pour être un vrai Don Juan. Effectivement, il est beau gosse et elle l'a souvent vu accompagné, mais jamais deux fois avec la même fille. Elle a même de temps en temps le privilège d'entendre ses ébats amoureux à travers la cloison légère qui sépare les deux appartements. Anne aperçoit de la lumière qui s'échappe par la fenêtre et elle entend de la musique. Sans relever la tête, elle continue sa progression à quatre pattes. Elle arrive au milieu de la façade et doit se trouver juste au-dessus de l'entrée de l'immeuble. Profitant d'un crochet qui se trouve à portée de main pour s'assurer, elle se risque à jeter un coup d'œil en dessous dans la rue. C'est haut, pourtant sa peur s'apaise peu à peu. Elle a déjà parcouru un bout de chemin, elle sait qu'elle est capable d'aller au bout et qu'à moins de le faire exprès, elle ne risque pas de tomber. Elle va maintenant passer sous les fenêtres de son deuxième voisin. Celui-là s'appelle Pierre-Emmanuel et montre un style très différent. C'est un grand garçon au physique peu gracieux dont les grosses lunettes. C'est un grand garçon au physique peu gracieux avec de grosses lunettes, un air timide et faussement intellectuel. C'est un étudiant toujours habillé n'importe comment et perdu dans ses pensées. À chaque fois qu'il se croise dans l'escalier ou sur le palier, Anne a l'impression qu'il lui faut du temps pour la reconnaître. À ce détail près, il paraît gentil garçon. Chez lui aussi, elle aperçoit de la lumière. Elle continue, arrive à l'angle et tourne encore à gauche. Comme sur le côté opposé, il n'y a pas de fenêtre, mais ce côté-ci de l'immeuble est accolé à l'immeuble voisin qui le dépasse d'un étage. Elle circule donc sans aucun risque dans une sorte de couloir entre le toit et un mur. Elle peut se mettre debout et marcher tout droit, c'est bien plus commode et plus rapide. Encore un angle, et ayant fait le tour presque complet du bâtiment, elle se retrouve sur l'arrière de l'immeuble, à quelques mètres d'où elle est partie. Seule la verrière de l'escalier la sépare de ses propres fenêtres. Elle avance encore un peu à quatre pattes, et elle se remet debout, en face de la première fenêtre d'Émile Perrier. Elle sort une petite lampe de poche et éclaire l'intérieur de l'appartement. Elle y voit de jolis meubles en bois travaillé. Anne n'a aucune connaissance sur les styles et la valeur du mobilier, mais comme elle n'a chez elle que des meubles premier prix en panneaux blancs, style IKEA, elle trouve du charme à la moindre étagère en vrai bois. Elle se rappelle qu'Émile Perrier était menuisier. Il a sûrement dû fabriquer tout son mobilier lui-même. Devant elle est posée une table entourée de quatre chaises. Au fond, elle aperçoit un grand buffet. De façon symétrique à son appartement, elle distingue deux portes sur la gauche. La première doit correspondre à un placard, la seconde au cabinet de toilette. Tout a l'air bien à sa place, aucune trace de lutte, chaises renversées, vaisselle brisée, papiers éparpillés, n'est visible. Mais Anne a peur de se faire remarquer depuis l'immeuble d'en face. Une fenêtre éclairée n'attire pas l'attention, mais le faisceau agité d'une lampe de poche peut sembler suspect. Elle éteint donc et, se remettant à quatre pattes, elle progresse jusqu'à la seconde fenêtre et se livre au même exercice d'observation avec sa petite lampe. Elle voit devant elle et à droite une cuisine équipée tout en bois et plus loin des fauteuils et un canapé formant un coin salon devant le buffet. De ce côté aussi, tout paraît bien rangé. Anne éteint sa lampe. Elle ne peut faire grand-chose d'autre. Mais au moment de repartir, par acquis de conscience, elle appuie fortement sur la fenêtre. On ne sait jamais si elle était mal accrochée. Mais non, les vantaux ne bougent pas. Elle s'accroupit, reprend la position à quatre pattes et, repassant devant la première fenêtre, elle se relève pour pousser aussi dessus. À sa grande surprise, la fenêtre s'ouvre. Elle hésite à entrer pour faire une visite plus complète. Là, elle se rend compte qu'elle commet une grosse erreur. En touchant les fenêtres, elle a laissé ses empreintes. Si la police les relève et les identifie, il ne lui sera pas facile de se justifier. Et surtout, comme la police a des doutes sur ses relations avec Jean-Baptiste, elle risque de lui créer de nouveaux ennuis. Elle se décide donc à refermer la fenêtre et à rentrer, en prévoyant de revenir au plus tôt avec des gants. Mais ce n'est pas si facile de refermer une fenêtre de l'extérieur. Rien n'a été prévu pour cela. Il n'y a aucune prise pour tirer vers soi les deux vantaux. Anne ne sait comment faire. Il lui faudrait une ventouse, un crochet, peut-être une grosse pince. Elle n'a rien et doit laisser la fenêtre tout juste tirée. De loin, elle paraîtra fermée, mais le moindre petit courant d'air l'ouvrira en grand. Il faut donc que je revienne demain au plus tard, équipée de gants et de tout ce qu'il faut pour la refermer correctement. Bon, avant de partir, effaçons nos empreintes. » Et, tirant son mouchoir, Anne se met à astiquer les deux carreaux et les montants de la fenêtre. Elle retourne ensuite à l'autre fenêtre et y fait le même ménage. Enfin, toujours à quatre pattes, elle prend le chemin du retour. Quelques minutes plus tard, quand elle se retrouve enfin chez elle, elle a les mains gelées et les genoux talés et en sang. Elle se déshabille pour prendre une douche et tout à coup, une évidence, comme une sorte de révélation, s'impose à elle. « Mais bien sûr, cette histoire de clé à laquelle s'attache la police ne tient pas debout puisqu'on peut entrer et sortir de l'appartement autrement que par la porte. L'assassin a pu prendre le même chemin que moi en partant de l'un des deux autres appartements ou même de l'immeuble d'à côté, puisqu'il suffit d'une échelle de corde pour atterrir sur notre toit. C'est déjà une première victoire, puisque j'ai pu faire avancer l'enquête sur un point. Demain, il faudra tout de même que je vérifie pourquoi cette fenêtre n'était pas verrouillée. » Samedi 21 octobre. L'après-midi, Anne part faire des courses. Elle s'achète une paire de baskets bleu marine, une paire de gants noirs, une grosse polaire foncée et une cagoule pour cacher au mieux son visage et ses cheveux. Elle trouve aussi une paire de genouillères et des crochets de torchons en plastique qui se fixent avec des ventouses. Dès que la nuit est bien noire, Anne, tout équipée, passe par sa fenêtre, la referme en utilisant ses ventouses avec succès et entreprend de refaire le tour presque complet du toit de l'immeuble. Elle est surprise de ressentir beaucoup moins d'appréhension que la veille. Si elle reste tendue, aux aguets, avec la peur de se faire prendre, elle se rend compte qu'elle a presque apprivoisé le vide. Elle ne le sent plus comme un piège sournois qui l'attire et qui mobilise toutes ses forces pour lui résister, mais comme un simple danger connu et domestiqué, un peu comme les voitures qui la frôlent dans la rue. Après quelques mètres à quatre pattes, rassurée quant au risque de tomber, Anne essaie de se mettre debout. Elle s'aperçoit qu'elle peut marcher en gardant sa main gauche contre les plaques de zinc du toit. Cette main ne trouve aucune prise, mais c'est rassurant de garder le contact avec une masse solide qu'il suffit de suivre. Debout même, en marchant avec précaution, elle avance beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de peine. Arrivée à la hauteur de la première fenêtre de Thibault, elle doit se courber en deux pour ne pas risquer d'être vue depuis l'intérieur. Mais au niveau de la deuxième fenêtre, elle est tentée de jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur. « Je ne crois pas que je risque de me faire repérer. La nuit, personne n'a l'idée de regarder par les fenêtres et, avec la lumière dans la pièce, difficile d'apercevoir quelque chose de non éclairé à l'extérieur. » Sans coller son nez à la vitre, Anne, obéissant à sa curiosité, jette un regard indiscret dans la garçonnière de Thibault. L'appartement est meublé en moderne, mais l'ensemble a une certaine classe. Tout est fait pour créer une ambiance chaude, confortable. Les fauteuils ont l'air très moelleux, l'éclairage est tamisé, une télé est allumée dans un coin. Dans la partie cuisine, une jeune fille brune est assise sur la table, les jambes pendantes. Thibault va et vient devant elle et lui parle en faisant de grands gestes. Anne n'entend pas ce qu'il dit. « Il lui fait le grand jeu, c'est sûr !» Anne continue sa progression, puis s'arrête de nouveau devant une fenêtre de Pierre-Emmanuel. Là, la surprise est totale, changement radical de décor. Cet appartement est un vrai Capharnaüm. Éclairé par une dizaine de spots, des ordinateurs, des livres ouverts partout, des appareils démontés, les entrailles à l'air, des pinces, des tournevis, des outils répandus dans tous les coins, des câbles électriques, des rallonges, forment une vraie toile d'araignée. C'est l'atelier d'un réparateur de quartier ou l'antre d'un savant fou. Ces géos trouvent tout en pleine création ou un super espion qui prépare l'attaque de l'Élysée. Le maître des lieux est assis, tournant le dos à la fenêtre. Impossible de savoir ce qu'il fait, mais il paraît très concentré, ses épaules bougent à peine. Anne profite de l'occasion pour bien observer l'étrange appartement. Elle finit tout de même par reprendre sa progression. Elle s'arrête quelques minutes dans la partie encaissée entre les deux immeubles pour tenter de découvrir des traces de passage ou d'escalade qui viendraient à point pour étayer sa thèse de l'assassin venu par les toits. Mais avec sa petite lampe de poche, qu'elle n'ose à peine éclairer de peur de se faire remarquer, elle ne remarque rien d'intéressant. La fenêtre d'Émile Perrier s'est entrouverte depuis la veille. Anne n'est pas surprise puisqu'elle n'avait pas pu la tirer complètement ni la bloquer. Elle espère que cette fenêtre restée ouverte toute une journée n'aura pas attiré l'attention. Sans hésiter, elle saute dans l'appartement. Elle commence par vérifier l'état de la crémone et constate qu'elle est cassée. Donc rien n'indique que l'assassin s'est sauvé par là en tirant simplement la fenêtre de l'extérieur. Il est parfaitement normal que cette fenêtre n'ait pas été verrouillée puisqu'il est impossible de le faire. Donc la piste du criminel entrant et sortant par la fenêtre ne tient plus qu'à un fil. Bien sûr, on ne peut l'exclure totalement, elle reste possible, mais il n'y a plus d'indices pour la suggérer. Anne tire les doubles rideaux, qu'elle trouve beaucoup trop translucides pour pouvoir allumer sans risque les lampes de l'appartement. En prenant soin de rendre sa lampe sourde, en mettant ses doigts pour filtrer le faisceau, elle fait le tour de l'appartement. Rien ne permet de deviner qu'un crime a été commis ici récemment. Tout est rangé à sa place, à tel point qu'Anne a l'impression de visiter un logement inoccupé depuis longtemps. L'odeur dominante est celle du vieux bois, aucune note corporelle, de parfum ou de cuisine. Cela rappelle à Anne tous les meublés qu'elle a visités avant de s'installer dans l'appartement voisin. Elle ouvre le cabinet de toilette, n'y trouve rien de particulier. Une jolie armoirette en bois a été installée au-dessus des WC, mais elle ne contient que du papier hygiénique et des produits d'entretien. Elle visite ensuite le grand placard qui fait suite au cabinet de toilette. Chez elle, ce placard ne contient que quelques tenues pendues sur des cintres, quelques pulls et sous-vêtements sur le rayon du dessus et 5 ou 6 paires de chaussures dans le bas. Ici, le placard est plein, débordant même. Il y a bien des vêtements serrés les uns sur les autres, mais aussi des tas de boîtes et de cartons de toute taille, savamment empilés pour ne laisser aucun espace vide. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans tout ça? En tout cas, l'assassin n'a visiblement pas pris la peine de fouiller là-dedans. Anne s'intéresse ensuite au superbe buffet qui garnit le fond de la pièce. Elle ouvre toutes les portes, tire tous les tiroirs. Là aussi, tout est plein. de la belle vaisselle, mais aussi des livres, des dossiers, des albums photos. Elle continue sa visite par les placards de la cuisine, qui sont eux aussi très encombrés. Elle trouve même un des grands tiroirs remplis de vieux outils à main, ayant tous une longue carrière derrière eux. Des ciseaux à bois, des gouges, des bédanes, des tournevis, des marteaux, des maillets, des scies, un trusquin, un vilebrequin, des mèches, etc. De quoi faire le bonheur d'un antiquaire. La bibliothèque, installée entre les deux fenêtres, est remplie en grande partie d'ouvrages sur le travail du bois, les meubles de style, la charpente, s'y ajoutent quelques romans et une Bible. Anne ouvre encore les tiroirs de la table, puis jette un œil sous les fauteuils, sous le canapé, et trouve sous le lit une grosse malle métallique et des caisses à outils. Elle n'ose pas les tirer pour les examiner de plus près, de peur de laisser des traces sur le parquet. Ce qui est curieux, c'est que tout cela est bien à sa place. Si un malfaiteur était venu pour chercher de l'argent ou des papiers compromettants, il y aurait des traces de fouilles. Donc, soit il ne cherchait rien et voulait seulement supprimer Émile Perrier, peut-être témoin gênant d'une affaire louche, soit Émile Perrier lui a donné sous la menace ce qu'il cherchait, soit il connaissait bien les lieux et, sachant où trouver ce dont il avait besoin, il s'est servi lui-même sans rien déranger. Anne se sent fière de sa déduction à la Sherlock Holmes. Puis elle regarde autour d'elle et se rend compte qu'elle ne l'avance pas à grand-chose. Sa seule piste, c'est cet appartement. Elle va devoir tout fouiller minutieusement. Elle finira bien par trouver quelques indices intéressants, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Elle a un moment de découragement devant l'ampleur de la tâche. Comment peut-on entasser tant de choses dans un si petit appartement ? Il ne faudrait guère plus d'une heure pour fouiller le sien de fond en comble. Mais là, elle va y passer des soirées et des soirées. Si au moins elle savait précisément ce qu'elle cherche. Il faudra aussi qu'elle interroge un peu mieux Jean-Baptiste sur la vie de son grand-père. Cela fait un peu plus d'une heure qu'elle est là et la pile de sa lampe donne des signes de faiblesse. Elle décide qu'il est temps de rentrer. Elle vérifie qu'elle n'a laissé aucune trace, repasse par la fenêtre et parvient à la remettre en position fermée à l'aide de ses deux ventouses à torchons. En passant, elle aperçoit Pierre-Emmanuel, toujours à la même place, toujours absorbé par sa besogne. Un peu plus loin, Thibault et la jeune fille brune sont debout, enlacés et s'embrassent fougueusement. « Les discours sont finis, on va passer aux préliminaires !» Avant d'aller se coucher, Anne change la pile de sa lampe. Elle a bien l'intention de retourner chez Émile Perrier le lendemain et les jours suivants jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. Dimanche 22 octobre. À la nuit tombée, habillée, chaussée, gantée et cagoulée, Anne franchit sa fenêtre et, sans appréhension particulière, comme si elle prenait un petit sentier en sous-bois, elle sort faire sa promenade du soir par le chemin des toits. « Tiens, Thibault est toujours avec la même brune. Elle doit être exceptionnelle, celle-là. Sans doute viennent-ils d'arriver, car ils sont encore tout habillés. » Vautrés dans le canapé, ils sirotent un verre d'alcool en échangeant toutes sortes de petits bisous. Pierre-Emmanuel est rentré aussi, s'est allumé chez lui. Anne jette un œil sans vouloir s'attarder. Elle retrouve l'ambiance atelier d'inventeur qu'on pourrait croire sortie d'une page de bande dessinée. Mais aucune trace de l'inventeur lui-même. Elle regarde un peu mieux, fait du regard le tour de la pièce et tout à coup sent un frisson glacé lui parcourir le dos. La sueur coule sur son visage, elle est tétanisée. Deux yeux étonnés la regardent fixement. Presque invisible au milieu de tout ce fourbi, entre un écran d'ordinateur et une grosse machine non identifiée, Anne reconnaît la tête de Pierre-Emmanuel qui l'observe sans bouger. L'effroi l'empêche d'abord de faire le moindre mouvement. Tous deux se regardent ainsi sans bouger pendant plusieurs secondes qui paraissent une éternité. Enfin, Anne, ruisselante de sueur glacée, reprend conscience de la réalité et la peur lui donnant des ailes, on le dit, elle s'enfuit en courant presque sur le bord du toit. Une peur irraisonnée lui fait craindre que Pierre-Emmanuel ne se précipite pour ouvrir sa fenêtre et l'interpelle. Elle passe sans ralentir devant les fenêtres de Thibault et ne commence à se sentir en sécurité que lorsqu'elle a tourné à l'angle du toit. Un peu plus tranquillement, elle revient jusque vers chez elle. Elle saute la fenêtre, arrache sa cagoule et ses gants. « Mais quelle idiote je suis! C'est malin, vraiment très malin! Je fais quoi maintenant? Quelle idée de faire la curieuse imbécile! Qu'est-ce que j'en ai à fiche de Pierre-Emmanuel? Je ne pouvais pas passer simplement en baissant la tête. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? S'il ne m'a pas reconnue, il risque de signaler à la concierge ou même à la police que des inconnus se promènent sur le toit la nuit. S'il m'a reconnue, c'est encore pire, il peut croire que je suis l'assassin et me dénoncer. Le mieux est peut-être d'aller le voir et de lui expliquer. » Anne se passe la tête sous l'eau, elle se sent à la fois gelée et moite. Puis elle se décide à aller frapper chez Pierre-Emmanuel. Elle traverse le couloir aussitôt, de peur de ne plus en avoir le courage plus tard. Quand Pierre-Emmanuel, un peu surpris, lui ouvre la porte, Anne n'est vraiment pas fière d'elle. « Je viens pour m'excuser, » commence-t-elle. « C'était vous, » répond-il en montrant la fenêtre. « Il me semblait bien vous avoir reconnu. Mais entrez. » Il referme la porte derrière Anne. « Désolé, » reprend-il, « ce n'est pas tellement rangé. » Mais c'est vrai que vous connaissez. » Anne rougit. « Je vous demande pardon, ce n'est pas à vous que j'en ai. C'est ma vilaine curiosité qui m'a fait regarder chez vous en passant. »
« Vous passiez ?»«
Oui, j'allais chez Émile Perrier, notre voisin. »
« Il est mort, Émile Perrier. »
« Je sais, je cherche des indices pour retrouver son assassin. »
« Vous êtes détective privée ?»
« Non, je suis vendeuse en boulangerie, mais je voudrais aider Jean-Baptiste, son petit-fils, que la police accuse injustement du meurtre. »
« Et vous avez trouvé des indices sur le toit ?»
Anne comprend qu'elle va devoir tout dire. « Je ne cherche rien sur le toit, je ne fais qu'y passer pour entrer dans l'appartement d'Émile Perrier. »
« Vous entrez chez Émile Perrier par une fenêtre ?»«
Eh oui, la police a posé des scellés sur la porte. »
Et la fenêtre est ouverte?
Il y en a une qui ne ferme pas.
Pierre-Emmanuel réfléchit. Malgré ses grosses lunettes et son allure de dernier de la classe, Anne lui trouve l'esprit plus ouvert et plus vif qu'elle ne l'aurait cru.
Tu veux boire un verre? On va se dire tu, ce sera plus simple.
D'accord.
Comme alcool, j'ai du vin de noix que fait ma grand-mère. Ça te va?
« Oui, très bien, un peu d'alcool me fera du bien après toutes ces émotions. »
Pierre-Emmanuel dégage une chaise et un coin de table. Il s'assoit en face d'Anne et remplit deux verres.
« Tu peux m'expliquer un peu mieux ton histoire ?»
Anne relate alors en détail ce qui s'est passé depuis la mort d'Émile Perrier.
« Je suis prêt à t'aider, » déclare-t-il en guise de conclusion. « Enfin, si tu veux bien de moi. »
Avant de répondre, Anne sirote quelques gorgées de vin de noix pour se donner le temps de réflexion. Pour fouiller l'appartement, ce sera plus facile à deux, pour réfléchir aussi. Et comme je ne peux pas trop compter sur Jean-Baptiste...
Pourquoi pas ? Répond-elle enfin.
Merci d'accepter mon aide, Anne. Tu t'appelles Anne, c'est ça ?
Oui, et toi, c'est Pierre-Emmanuel ?
En fait, mes amis m'appellent Piem. C'est plus court et moins prétentieux. La première aide que je te propose, c'est de partir depuis ma fenêtre. Ça nous fera beaucoup plus court pour aller chez Émile et nous n'aurons pas à passer devant les fenêtres d'autres appartements, ce qui limitera les risques de nous faire repérer. On y va ?
Si tu veux, mais il faut que tu te trouves une tenue de sport chaude et foncée comme moi, une paire de gants pour ne pas laisser d'empreintes et éventuellement une cagoule.
Pierre-Emmanuel se met à genoux, fouille dans un recoin où sont entassés toutes sortes de vêtements. Anne regarde l'indescriptible désordre ambiant qui l'entoure, puis observe son nouvel associé, parti à la recherche de ses vêtements les plus sombres, rangés en vrac sous la forme d'un énorme tas, à côté et sous le lit.
« Tu es étudiant en quoi, si ce n'est pas indiscret ?»«
En électronique, mais je ne suis plus étudiant. J'ai eu mon diplôme en juin dernier. » « Maintenant, je travaille. Ne fais pas attention, l'appart n'est pas très bien rangé en ce moment parce que je fais quelques expériences pour mon propre compte. »